Bonjour à tous. Alors pour les enfants qui sont restés dans la salle, il y a des petites fiches qui sont disponibles au fond. Il y a Sarah et Lida qui en ont, qui vous permettent aussi de suivre un peu la prédication avec nous. N'hésitez pas à aller les chercher. J'ai un ami qui s'appelle aussi Joshua, comme moi. Il était lyonnais, maintenant il est rentré en Australie. Et un de ses enfants, son fils, quand on lui demandait, en tout cas quand il était plus jeune, quand on lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, il répondait « pizzaïolo ». C'est pas mal. Et ton plan B, si ça marche pas ? Astronaute. Et vous, c'est quoi vos ambitions dans la vie ? De quoi est-ce que vous espérez que l'avenir sera fait ? Si vous êtes un peu comme moi, peut-être que vous avez un plan pour les 10, 20 prochaines années de votre vie. On ne veut rien laisser au hasard. Ou alors peut-être que vous êtes un peu plus détendu que moi, et pour vous, le long terme, c'est peut-être les 6 prochains mois, grand maximum. Ou peut-être encore qu'à cause des circonstances de votre vie, la maladie, la dépression, l'ambition pour vous, ça n'a plus trop de sens. Vous n'espérez plus grand-chose par rapport à l'avenir. Et si ce matin, on est là et on se dit chrétien ? On professe la foi en Jésus-Christ. À ce moment-là, quel genre d'ambition est-ce qu'on devrait avoir ou ne pas avoir ? On va lire ensemble dans un instant un passage dans la Bible qui devrait complètement recadrer nos ambitions, nos espoirs. Qu'on n'attende plus rien de la vie ou qu'on ait de grands projets, qu'on sache où on va ou non, ce passage va nous rendre ambitieux, mais pas de la manière dont on l'attend. Si vous êtes avec nous depuis quelque temps, vous savez qu'on a l'habitude de prêcher, d'enseigner dans la Bible de manière suivie. D'une semaine à l'autre, on regarde des passages successifs dans la Bible. Et la semaine dernière, en fait, on a terminé une série d'enseignements de ce type-là, dans le livre de Jérémie, un livre de l'Ancien Testament, la première moitié de la Bible. Et pendant l'été, on va regarder ensemble l'épître de 2 Corinthiens, une lettre qui est dans le Nouveau Testament, la partie de la Bible écrite après Jésus. Mais là, aujourd'hui et la semaine prochaine, on va faire une micro-parenthèse, un petit arrêt dans l'évangile de Marc. Un évangile, c'est tout simplement un livre qui raconte la vie de Jésus. Et il se trouve qu'ici, dans le chapitre 10 de Marc, qu'on va lire ensemble dans juste un instant, on va être au cœur du message de ce livre, de cet évangile, et en fait au cœur du message de Jésus. Vous verrez d'ailleurs la semaine prochaine, dans le passage sur lequel Timothée va prêcher, on va tomber sur la phrase la plus importante de cet évangile, mais ça sera pour dans une semaine. Et donc ce qu'on va voir ensemble, aujourd'hui et la semaine prochaine, ces 2 semaines, c'est le genre d'ambition qu'on devrait avoir. Si on se dit chrétien, si on se confie en Jésus-Christ, est-ce qu'on peut être ambitieux ? Est-ce qu'au contraire, on devrait mettre de côté toute ambition ? Et surtout, quel genre d'ambition est-ce qu'on devrait avoir ? On va lire ensemble dans Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 31. Si vous avez la petite feuille, le feuillet qu'on vous a donné à l'entrée avec les chants, vous allez retrouver à la 3e page le texte qu'on va lire ensemble. Ça vous aidera à suivre. Et sur le petit insert, la feuille volante, vous allez aussi trouver un plan de ce qu'on va voir ensemble. D'ailleurs, en bas de ce plan, il y a quelques petites questions de discussion que vous pouvez voir si vous voulez profiter du temps après le culte pour discuter ensemble, approfondir encore ce passage, ce qu'on y apprend. Ça peut être chouette. On va lire Marc, chapitre 10, les versets 17 à 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais du tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Puis il s'assombrit à ses paroles, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres « Alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire « Voici que nous avons tout quitté, nous avons suivi. » Jésus répondit « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Avant d'aller plus loin, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Tu as envoyé ton Fils dans ce monde pour proclamer que ton royaume est venu. Ton royaume s'est approché puisque le roi Jésus est venu. Nous avons la chance, le privilège inouï de l'entendre encore parler aujourd'hui. Alors mets-nous à son écoute. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous soyons réceptifs. Transforme nos vies par ton esprit. Amen. Alors, tout le message de ce passage qu'on vient de lire, ça tient en une seule phrase. Donc si on retient une chose, si on note une chose sur la feuille, c'est ça. Dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'endroit où Jésus règne, est reconnu comme roi, dans le royaume de Dieu, tout fonctionne à l'envers. Il faut tout perdre pour tout gagner. Il faut tout perdre pour gagner Jésus. Et donc, en conséquence, nos ambitions, nos espoirs, nos projets devraient être renversés pour suivre Jésus. Comment est-ce qu'on voit tout ça dans notre passage ? Ben, on va voir dans un instant trois manières dont Jésus nous le montre. Mais avant ça, regardez la fin, verset 31. Jésus nous le dit en toutes lettres. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. J'ai parlé tout à l'heure de mon ami australien, le royaume de Dieu c'est comme l'Australie. C'est là où on marche avec la tête en bas, tout est à l'envers. Regardez avec moi le texte de plus près, on va voir comment Marc nous montre ça de manière plus détaillée. L'histoire qu'on a lue, elle se découpe grosso modo en deux scènes. Une première scène où un homme vient voir Jésus, il y a un dialogue. Une deuxième scène où Jésus discute avec ses disciples, c'est-à-dire les personnes qui se sont mis à le suivre et qui désormais sont en train d'être formées par lui pour leur ministère. Et à chaque fois, le royaume de Dieu va nous surprendre. On va avoir trois surprises en fait, trois choses que Jésus va dire qui vont laisser ses auditeurs bouche bée. Premièrement, ce n'est pas les gens qu'on attend qui entrent dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, ce n'est pas le chemin qu'on attend qui permet d'entrer dans le royaume. Et troisièmement, la vie dans le royaume, ce n'est pas celle qu'on attend. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos ambitions, nos projets, nos espoirs devraient être renversés pour suivre Jésus. Donc premièrement, ce n'est pas les gens qu'on attend, versets 17 à 22. Première scène, donc un homme vient voir Jésus. C'est un homme clairement ambitieux. On apprend verset 22 qu'il était même très riche. Après une scolarité sans doute ici à l'école Saint-Michel, il a fait des études de commerce à l'UCL, puis à Londres. Maintenant il a 32 ans, il travaille comme consultant, il est marié. Il perd un petit garçon et vient d'acheter un appartement de 170 mètres carrés à Woluwe-Saint-Pierre. Aux yeux de tout le monde, il a réussi sa vie. Mais quand même, il est un peu tracassé. Élevé catholique, il a pris ses distances, il ne pratique plus. Mais il s'efforce quand même de vivre une vie morale, comme on lui a enseigné. Mais est-ce que c'est assez, ça ? Et si jamais la mort, ce n'était pas la fin ? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ? Peut-être que c'est vous, ça, ce matin. Vous êtes curieux, vous sentez que ces choses sont d'une importance vitale, vous êtes ici pour en savoir plus, vous êtes quelque part à la porte du royaume de Dieu. Comment donc franchir le pas ? Eh bien, notre ami qui se pose ces questions, il est maintenant téléporté en Palestine au 1er siècle et il va voir Jésus. Il s'agenouille devant lui et il lui pose cette question. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» C'est une excellente question. Parfois, on dit à tort qu'il ferait preuve ici de légalisme. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle? Mais visiblement, Jésus ne réagit pas négativement dans ce sens-là. Au contraire, on va voir, Jésus va lui dire « Obéis encore plus ». La question posée est une excellente question, sans doute la plus importante que cet homme pouvait se poser, la plus importante peut-être que nous pouvons nous poser ce matin. Réponse de Jésus, regardez verset 19. « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, fais du tort à personne, honore tes parents. Si tu veux hériter de la vie éternelle, alors garde ces commandements. » Ça tombe bien, cet homme que Jésus a en face de lui, il est vraiment remarquable. « Maître, j'ai gardé tout cela depuis ma jeunesse. » Vraiment ? Il exagère pas un petit peu, là ? En tout cas, c'est pas ça que Jésus va lui répondre. Il va pas remettre en question la bonté admirable de cet homme, son comportement moralement remarquable. Ce que Jésus va faire, ça va être beaucoup plus intéressant et profond que ça. Verset 21, « Jésus, l'ayant regardé, l'aima, puis il lui dit, « Il te manque une chose. » Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On voit ici toute la tragédie de la situation. Cet homme qui est si proche du royaume de Dieu, il finira par s'en aller. Mais il était tellement proche, il a parlé avec Jésus. Ensuite, Jésus le regarde, il voit jusque dans le fond de son cœur, Jésus l'aime. Et quand même, il va repartir. C'est tellement triste. Mais c'est par amour pour cet homme que Jésus l'a mis au défi. Jésus lui dit, il te manque une seule chose. C'est quoi cette chose? Si on regarde de près, en fait, Jésus, il n'a pas dit dans le texte quelle est cette chose qui manque encore à cet homme. Je ne pense pas que ce soit le fait de tout donner aux pauvres et de suivre Jésus. De tout donner, ce n'est pas une chose qui lui manque. C'est une chose qu'il aurait à faire. La réponse, elle se trouve quand on regarde de plus près les commandements que Jésus a énumérés. Pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, fais du tort à personne, honore ton père et ta mère. C'est quoi? C'est 6 des 10 commandements, les 10 grandes lois que Dieu avait données à son peuple, qui constituent un peu le noyau, le cœur de l'obéissance à Dieu. 6, pas 10. Il manque les 4 premières. On va commencer par la première. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cet homme, il est admirable, il se pose des bonnes questions, il est riche, il est clairement ambitieux, même en ce qui concerne l'éternité, mais il y a un grand absent dans l'histoire. Une chose qui lui manque, c'est Dieu. C'est le fait d'adorer Dieu et Dieu seul. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois dans ce passage que l'homme, il semble avoir zappé Dieu. Vous avez vu au début, il vient voir Jésus, verset 17, il lui adresse la parole en disant « Bon maître ». Bon, c'est un titre réservé à Dieu et à Dieu seul. Ici, le gars, il s'en sert pour flatter les gens. Ça, c'était le 3e commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Et d'ailleurs, Jésus, il fait la remarque, verset 18, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Bon, l'ironie de l'histoire, c'est que Jésus, il est Dieu. Mais l'homme, il ne le sait pas. Il est juste là en train d'essayer de flatter quelqu'un pour avoir une bonne réponse. Et en faisant ça, en fait, il s'est grillé. Dieu n'occupe pas la place qu'il devrait dans sa vie. Il a la vie parfaite, il ne prend pas Dieu au sérieux. Il illustre en fait ce que Jésus a dit plus tôt dans cet évangile. Vous l'avez écrit sur votre feuillet. Marc 8, 35. « Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» C'est ça le drame en fait. L'homme, il a tout gagné. Il a la vie parfaite. Il a réussi. Et en ce faisant, il a tout perdu. Dans le royaume de Dieu, tout fonctionne à l'envers. Il y a des gens dans ce monde pour qui tout va bien, ils n'ont pas le moindre souci, la vie est belle, mais s'ils ont zappé Dieu, alors en réalité, on passe à côté de la vie. Ça, c'est le danger de ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Si vous étiez avec nous jeudi, il y a 10 jours, jeudi soir, pour la dernière étude biblique de l'année, on en a parlé, on a discuté un peu ensemble de l'idolâtrie. Quand une chose, même une bonne chose, devient une chose centrale dans notre vie, prend la place de Dieu dans notre vie, alors on se met à adorer cette chose comme un faux Dieu, comme une idole à la place de Dieu. Prenez l'argent par exemple, puisque c'est l'exemple ici. On se dit peut-être que c'est un simple outil. C'est neutre. Sans doute que cet homme ne pensait pas être asservi à l'argent. Et pourtant, dans sa vie, et peut-être dans la nôtre, l'argent prend la place de Dieu. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, et on le remplace par l'argent. À la place du Père, le Créateur de toutes choses, nous on admire le self-made man, l'homme qui s'est créé tout seul sa propre fortune, qui doit rien à personne. À la place du Fils, Jésus, le Sauveur, nous on se tourne vers nos économies pour nous sortir du pétrin. À la place du Saint-Esprit, le Consolateur, on se console en dépensant de l'argent, en faisant du shopping. En théorie, on croit encore à Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. En pratique, on sert le Dieu, argent, argent, argent. Comme cet homme, on peut avoir l'air parfaitement respectable, mais en fait, on a zappé la place de Dieu dans notre vie. Vous voyez, cet homme, il habite en Palestine au 1er siècle. Il aurait pu habiter en Belgique au 21e siècle. On n'a pas vraiment changé. Il aurait peut-être pu même devenir membre parfaitement respectable d'une église évangélique. On l'aurait apprécié, puisqu'en plus, il donnait pas mal d'argent. Peut-être qu'on aurait fait de lui un ancien à cause de ça, qui sait. En tout cas, il n'est pas très différent de nous, c'est ça qui est important. Et pourtant, cet homme qui est si proche du royaume de Dieu, il ne va pas franchir la porte. Il était le meilleur candidat possible. Mais ça ne passe pas. C'est pour ça qu'au verset 24, vous voyez, les disciples ils sont tellement stupéfaits. Si même ce gars-là, il n'arrive pas à entrer dans le royaume de Dieu, alors nous, humbles mortels, on est fichus. Nous, on ne va jamais pouvoir y entrer. En fait, le meilleur candidat, il n'entre pas. Mais les pires candidats, ils entrent bien. C'est pas sur votre feuillet, mais les versets d'avant concernent une interaction entre Jésus et des enfants. Et Jésus l'a conclu juste dans les versets avant en disant « En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Les pires candidats, les enfants, ceux qui arrivent sans rien, sans aucune qualification, peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Et on est invité à leur ressembler. Celui qui est le meilleur candidat possible, tout semble aller dans son sens. Il n'entre pas dans le royaume de Dieu, il fait demi-tour à la porte. Tout fonctionne à l'envers dans ce royaume. On n'y trouve pas ce qu'on attend. Deuxième point, vous l'avez sur la feuille, ce n'est pas le chemin qu'on attend. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le chemin qu'on attend, versets 23 à 27. Comment donc est-ce qu'on peut entrer si ce n'est pas les gens qu'on attend? Comment est-ce que nous on peut faire pour entrer dans le royaume? Jésus il semble avoir donné une piste à cet homme en lui disant « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Alors c'est simple, pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il suffirait de mettre de côté tous ces faux dieux, tous ces idoles qui prennent la place de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Et à la place, on va adorer Dieu. Et alors, on pourra entrer, avoir la vie éternelle. Simple, non? Jésus va répondre que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ou plutôt, que c'est pas du tout ça. Il va le faire en racontant, vous l'avez vu, cette histoire de chameau. C'est plus difficile pour un homme riche d'être sauvé, d'entrer dans le royaume de Dieu, que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors c'est quoi cette histoire? Quand j'étais petit, on m'a raconté que le trou de l'aiguille, c'était une petite porte dans le mur de Jérusalem. Peut-être que vous avez raconté ça aussi. Si vous êtes devant, peut-être que vous voyez le livre pour enfants que j'avais à l'époque. Et un chameau, c'était trop grand pour passer par cette petite porte. C'était difficile. Il n'arrive pas à passer. Comment est-ce qu'il peut passer? Eh bien, il faut qu'il enlève tous ses bagages, tous ses faux dieux, qu'il les mette de côté, qu'il se mette à genoux, qu'il s'humilie, et là, en poussant bien fort, en essayant très fort, il va réussir à passer. C'est beau quand même, ça se prêche très bien, mais le problème c'est que c'est complètement faux. Cette porte, peut-être que vous avez déjà entendu ça, hein, mais cette porte n'a jamais existé simplement. Quand Jésus il parle d'une aiguille, il ne parle pas d'une porte, il parle de ça. Je vais apporter une aiguille pour qu'on puisse voir, je n'ai pas trouvé de chameau, désolé, vous allez devoir imaginer. Si vous êtes devant, peut-être que vous voyez l'aiguille, si vous êtes derrière, je ne sais même pas si vous la voyez. En tout cas, je pense que le seul qui voit le trou de cette aiguille, c'est moi dans la salle. Et puis un chameau, c'est grand. Puis en plus, il y a des animaux plus profilés, plus aérodynamiques pour passer dans le trou d'une aiguille. L'idée, c'est que c'est impossible. Et Jésus va le répéter, en fait, verset 27. C'est impossible. Le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu auquel nous, on s'attend, c'est d'essayer très fort et ça passera. L'homme riche, il s'attendait un peu à ça. En vivant une vie respectable, en faisant du bien autour de lui, ça passera. Les disciples, ils se disaient qu'il suffisait d'être riche, comme cet homme-là, justement, d'être quelqu'un qui, en toute apparence, est béni par Dieu. Ça passera à ce moment-là. Et nous, on se dit peut-être qu'il suffit d'enlever tout le bagage qui nous colle, de s'humilier, et si on essaye assez fort, ça passera. Mais Jésus pense autrement. C'est simple. Nous n'avons aucun chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme vouloir faire passer un chameau par une aiguille, ou faire entrer une baleine dans une mini, si vous voulez. C'est impossible, point. Le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu n'est pas celui qu'on attend. Pourquoi ? Simplement puisque nous n'avons pas de chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Aucun chemin. Bon, vous aurez compris que ce n'est pas la fin de l'histoire, mais Jésus continue en disant, verset 27, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Ça, c'est la bonne nouvelle, en fait, ça, c'est l'Évangile. Nous n'avons aucun chemin pour entrer dans le royaume de Dieu, mais Dieu, lui, il a un chemin pour nous faire entrer dans son royaume. Et donc, ce n'est pas le chemin qu'on attend. Nous, comme les personnages dans cette histoire, on s'attend à ce que Jésus nous dise comment faire. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ? C'est la question du début. Mais il n'y a pas de chemin vers Dieu. Et pourtant, verset 27, Dieu peut faire ce qui est impossible pour nous. Comment ? Comment est-ce que Dieu fait l'impossible ? On n'a pas la réponse dans notre passage, en fait. Ça va venir la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va voir justement le verset le plus important de tout l'évangile de Marc. Chapitre 10, verset 45. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour beaucoup. Je ne vais pas trop empiéter sur la prédication de Timothée la semaine prochaine. Mais c'est de cette manière que Dieu peut faire l'impossible. Dieu peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Comment ? Puisqu'il a envoyé son fils, Jésus, mourir à la croix. Ça, c'est le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est le chemin que seul Jésus pouvait parcourir, pas nous. C'est à la croix de Jésus que Dieu résout ce problème que nous ne pouvions pas résoudre. Nous, en fait, on est comme cet homme qui est moralement remarquable et pourtant, en réalité, il n'est pas assez bon. C'est le meilleur candidat possible. Donc, si lui n'y arrive pas, nous non plus. Mais il y a un candidat encore mieux que lui, c'est Jésus, qui est réellement bon, puisqu'il est réellement Dieu. Il a été même bon, parfait, à notre place, et il est mort pour payer la rançon, c'est-à-dire la dette que nous ne pouvions pas payer, puisque nous ne sommes pas assez bons. Et donc, il nous invite à faire confiance en Jésus. Par la croix, Dieu fait ce qui est impossible aux hommes. Il est le Dieu pour qui c'est possible. Et donc il y a une grande ironie quand nous, on sait tout ça, on croit tout ça, et on essaye quand même de passer par le trou de l'aiguille. On est toujours là à essayer de passer un chameau dans ce petit truc. On se dit qu'en faisant un petit truc en plus, alors Dieu nous aimera plus. Dieu nous approuvera plus. Si seulement j'étais plus comme lui, plus comme elle, alors sûrement je vais entrer dans le royaume, je vais avancer dans le royaume de Dieu. Mais le trou, il est trop petit pour faire ça. Dans le royaume de Dieu, tout fonctionne à l'envers, et le chemin pour y entrer, ce n'est pas celui auquel on s'attend. Et enfin, troisième point, la vie dans le royaume n'est pas celle qu'on attend. Versets 28 à 31. Qui va être dans le royaume ? Comment entrer dans le royaume ? Et donc, une fois qu'on y est, à quoi ressemble la vie dans ce royaume ? Pour rappel, le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Jésus est reconnu comme roi. On a eu tout à l'heure l'histoire d'un homme riche, ambitieux, mais pourtant qui n'était pas prêt à tout laisser pour suivre Jésus. Maintenant, l'histoire inverse. Jim Elliot, c'est un jeune Américain qui avait la vie parfaite. Figurez-vous, il était même marié à une Bruxelloise. Quelle chance. Elle s'appelait en fait Elisabeth et son père était pasteur dans notre union d'église. Mais Jim et Elisabeth Elliot, ils ont tout mis de côté et ils sont partis en Équateur pour annoncer Jésus à un peuple qui n'avait jamais entendu parler de lui. Et donc en 1956, à 28 ans seulement, c'est mon âge, il a été tué par ceux qui étaient venus aimer. Aux yeux du monde, il avait tout perdu. Sa carrière, son avenir et surtout sa vie. Et pourtant, dans son journal, on a retrouvé cette paraphrase de Marc 8, verset 35. « Il n'est pas insensé, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Il n'est pas insensé, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. C'était là où Jésus voulait nous amener. Il nous montre que le royaume de Dieu fonctionne à l'envers. Et pourquoi est-ce qu'il le fait ? Pour que nous, on puisse ensuite vivre la vie à l'envers. pour que nos ambitions, nos projets, nos espoirs soient renversés. Et c'est la question de Pierre dans notre passage qui amène à ce sujet, verset 28. Il dit à Jésus, voici, nous avons tout laissé, nous tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus, nous on est là, on a tout laissé, on te suit, ça va ressembler à quoi notre vie maintenant ? Réponse de Jésus, regardez verset 30, des persécutions. Si moi j'étais Jésus, je pense que j'aurais mis ça un petit caractère en bas du contrat où personne ne va le lire. Jésus le dit très honnêtement, en toutes lettres, la vie dans le royaume de Dieu, c'est pas facile. Il y a de la persécution, de l'opposition. Ça consiste, verset 29, à quitter à cause de Jésus et de l'évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant et terre. La persécution, c'est réel. Samuel nous a rappelé il y a un instant qu'il y a un chrétien sur sept dans le monde qui est persécuté en raison de sa foi. Il y a en moyenne 12 chrétiens qui meurent chaque jour pour leur foi. 12 hier, 12 aujourd'hui, 12 encore demain. Et c'est pas seulement un truc qui arrive à l'autre bout du monde. Au moment où quasiment on a déménagé de Lyon jusqu'à Bruxelles à l'automne dernier, un Irakien qui parlait de sa foi sur TikTok a été tué en direct dans la rue à Lyon par des islamistes. Et encore plus près de nous, on connaît sans doute des gens que s'ils avouent leur foi ouvertement, ils vont être rejetés par leur famille. C'est votre cas ce matin. Peut-être que vous n'avez pas encore pris ce pas-là de leur dire à cause des conséquences, puisque vous savez que vous allez tout perdre. Peut-être que vous l'avez déjà fait et vous avez tout perdu. Vous avez perdu un père, des frères, des sœurs, une mère. Et c'est justement là que Jésus fait cette promesse extraordinaire. Regardez avec moi, versets 29 et 30. Il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Au centuple, 100 fois plus, celui qui perd une famille à cause de sa foi en Jésus reçoit une autre plus grande. Ça, ce n'est pas une métaphore un peu vague pour dire qu'on va être consolé. C'est très concret, ça parle en fait de nous, de l'Église, de la famille en Jésus-Christ. En entrant dans le royaume de Dieu, on ne gagne pas seulement Dieu comme père, on gagne aussi des centaines de frères et de sœurs. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans la liste des choses qu'on perd, il y a les pères. Mais dans la liste de choses qu'on gagne, il y a toutes les autres choses, mais pas le Père. Pourquoi ? Puisqu'on a gagné un Père, qui est Dieu. On perd une famille peut-être selon le sang, mais on reçoit une bien plus grande selon la foi. C'est quand même un bel appel pour notre vie d'Église, notre vie ensemble en tant que famille. Tout ça pour dire que la vie dans le royaume de Dieu, encore une fois, ça fonctionne à l'envers. On perd pour gagner. En 2004, le soi-disant pasteur Joel Osteen, un Texan, il a publié le livre « Your Best Life Now », « Le meilleur pour maintenant », vendu à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde. Pour faire bref, la thèse du livre, c'est qu'aujourd'hui, vos rêves peuvent devenir réalité. Comment ? Essentiellement par du développement personnel, avec un petit vernis chrétien par-dessus. Je vous conseille pas forcément la lecture, c'est pas spécialement édifiant. Pourquoi je dis ça ? Puisque Jésus aussi nous dit que vous pouvez vivre aujourd'hui la meilleure vie. Ça ressemble à quoi ? Tout quitter pour le suivre, vivre la persécution, et puis comme il le dit ailleurs, porter sa croix. Et pourtant, à en croire Jésus, c'est ça une bonne vie. C'est ça la meilleure vie pour maintenant. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? En fait, c'est à cause des deux grands principes qui marquent notre section dans l'évangile de Marc. Je les ai mis en plus de notre texte sur le feuillet, on peut regarder ça ensemble. Marc 8, verset 35, « Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Le royaume de Dieu fonctionne à l'envers. La bonne vie, maintenant et dans l'éternité, on la trouve en acceptant de perdre sa vie, en mettant de côté tout pour Jésus. Et puis deuxième principe, encore sur le feuillet, Marc 10, 45, on l'a déjà lu, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus lui-même, il est venu dans le monde pour perdre sa vie, pour souffrir, pour vivre la vie à l'envers, si on veut. Et pourtant, c'est de cette manière-là qu'il a gagné. Il a gagné non seulement pour lui, mais pour nous aussi. Il a acquis, pour lui et pour nous, la vie éternelle. Joel Osteen, on gagne pour gagner. Jésus, on perd pour gagner. C'est pas facile à accepter, ça. Pour nous, quand même, le bien ultime, c'est souvent le confort. Assez d'argent pour vivre confortablement. assez peu de souffrance pour vivre confortablement. Mais Jésus, lui, n'était pas venu dans le monde pour vivre confortablement, pour éviter à tout prix la difficulté et la souffrance. Et c'est pas confortable non plus de suivre Jésus, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'abord parce qu'on a une famille incroyable, c'est ce que le texte nous dit. On a Dieu pour Père et on aura la vie éternelle dans l'âge qui vient. Et ensuite, à Jésus de conclure, verset 31, beaucoup des premiers seront les derniers seront les premiers. Encore une fois, ça fonctionne à l'envers. Et quand nous, on a bien intégré ça, quand on digère ça, quand ça rentre dans notre cœur, dans notre vie, à ce moment-là, on pourrait être prêt à renverser nos projets, nos espoirs, nos ambitions, nos vies en fait, pour Jésus et pour son évangile. On sera prêt à donner du temps, de l'hospitalité, de l'argent, en fait tout ce dont on dispose pour servir Jésus et son évangile. On arrête de s'attendre à une vie facile, une vie simple. On arrête même de penser que l'objectif dans la vie, c'est d'avoir une vie facile et simple. On ne cherche plus à vivre confortablement, mais on se réjouit puisqu'on sait qu'en faisant ces choses-là, on est en fait en train de vivre la meilleure vie possible. Même aujourd'hui, on est en train de porter sa croix et de suivre Jésus. J'ai un ami, il s'appelle François, il est tétraplégique depuis plus de 10 ans maintenant. Il avait la vingtaine, un peu plus de 20 ans quand c'est arrivé l'accident. Aux yeux du monde, ça c'est une vie gâchée. Lui, en fait, il attend qu'une seule chose, c'est de partir rejoindre son Seigneur. Et pourtant, il vit aujourd'hui la meilleure vie qu'il puisse vivre. Il n'a plus de projet, il n'a plus d'ambition. Je peux vous dire, c'est juste pas possible quand on est tétraplégique d'avoir des projets pour l'avenir. Il a tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il a de l'ambition pour Jésus, pour son évangile, pour son royaume. Et avec le temps qui lui reste, lui, il sait que ça pourrait être 30 ans ou 2 semaines. Avec ce temps-là, avec les moyens qu'il a, il sert Jésus, il sert son évangile et il sert son royaume. On va prier. Seigneur, nous te louons que tu es le Dieu qui fait ce qui est impossible aux hommes. Tu l'as fait d'une manière inattendue par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus. Tu permets à des personnes inattendues d'entrer de manière inattendue dans ton royaume inattendu. Alors nous te prions, conscients de ces choses, que nous sachions tout quitter pour te suivre. Quel privilège inouï de vivre à la suite de ton Fils, de renoncer au confort pour vivre la vie que tu veux pour nous. Aide-nous à faire cela. Aide-nous à être tout entier consacrés à toi. Nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen.